Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr et je suis avec Morgane Régnier. Bonjour.
Bonjour.
Pour Dromolib.
Exactement.
C'est quoi ton intitulé de poste là-bas ?
Directrice.
Et également avec Eric. Salut Eric.
Salut.
T'es très loin de ton micro mais c'est pas grave. Tu viens regarder un peu ce qu'on fait et puis bah, si tu veux poser des questions, t'hésite pas.
Hein ? Ça marche.
Voilà. Morgane Régnier, alors, Dromolib, tiens, est-ce qu'on peut se faire un petit rappel sur ce que c'est des fois qu'il y a des gens qui débarquent.
Alors, qui c'est Dromolib, effectivement. Oui. Alors, on est une association constituée en agence de mobilité. On existe depuis 2014, on est basé à Cray. Et notre objet principal, c'est de promouvoir les solutions pour se déplacer autrement que seul en voiture. Donc, à l'échelle de toute la Drôme, on va travailler avec les collectivités, les entreprises, les associations, les habitants pour trouver avec eux des solutions et faciliter nos déplacements. Donc, voilà, ça passe par plusieurs activités. On peut intervenir sur des animations, sur des stands pour relayer l'information. On peut aussi organiser des rencontres pour favoriser les retours d'expérience. On va avoir aussi un volet accompagnement. Donc là, on va organiser des plans de mobilité pour étudier les déplacements domicile-travail et pouvoir ensuite faire un plan d'action, identifier sur un lieu donné les opportunités. D'ailleurs, on a fait le plan de mobilité de Nateva et Jayance qui sont impliqués dans cette démarche. On a ensuite deux autres activités pour répondre à cette mission. C'est la formation, on est organisme de formation, on va faire des séances d'éco-conduite pour réduire notre consommation de gaz à effet de serre, ou bien des séances de vélo-école. Et enfin, développement de services, et on aura l'occasion d'en reparler. C'est une activité nouvelle pour justement proposer des nouvelles solutions en lien avec les collectivités pour se déplacer plus facilement.
Ouais, on va rentrer dans le détail, mais... Les entreprises, elles vous sollicitent pour se faire accompagner ou vous les identifiez en disant quand même, bon, par exemple, Jayance a un certain impact forcément sur le territoire, donc ça paraît évident d'aller essayer de travailler avec.
Alors les deux situations, l'idée c'est que nous, on travaille effectivement avec des acteurs qui ont envie d'être dans cette démarche d'évolution. Il faut savoir que dans les étapes du changement de comportement, le niveau zéro, c'est tout va bien, j'ai pas de problème, ma mobilité me convient, je prends la voiture tous les jours et c'est hyper pratique. Donc ces gens-là, évidemment, ne font pas partie de notre cible. Nous, on va aller effectivement travailler avec les structures qui se disent « Ah, je pourrais peut-être évoluer ma pratique, j'ai vu mon voisin qui se déplaçait à vélo, j'ai vu telle entreprise qui faisait comme ça. Ah, ben, y a Dromolib, etc. Et de fil en aiguille, on va être amené à travailler ensemble. Donc là, concrètement, pour Jayance, effectivement, ils se sont impliqués dans le Challenge Mobilité, qui est un événement régional qui incite les salariés à se déplacer autrement une journée dans l'année. Et ça va être un peu un coup de pouce ou un déclencheur pour après entraîner une nouvelle dynamique.
Et donc, ils se sont rendus compte que c'était bien suivi, par exemple.
Exactement. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel. Et ils sont surtout soucieux de des modes de déplacement pour faciliter la vie des salariés et réduire aussi leur impact écologique. Et ensuite, nous, c'est dans le cadre d'une convention que nous avons avec la communauté de communes du Diwa que nous avons pu proposer à Jayance et à Nateva. Mais d'autres structures auraient pu aussi du coup, marquer leur intérêt de les accompagner sur un plan de mobilité.
C'est un appel d'ailleurs, non ?
Oui, on est effectivement preneurs d'accompagner les structures qui le souhaitent.
On se dit tout de suite par défaut, c'est les déplacements doux, on a parlé du vélo, etc. Mais c'est même le covoiturage, ça peut être c'est très large.
C'est ça.
Voiture plus train plus...
L'écomobilité, nous, la définition qu'on aime lui donner, c'est se déplacer tout le temps quand on veut, enfin garder cette notion de liberté, mais avec autant que possible un moyen de déplacement qui n'impacte pas l'environnement. Donc ça va être, on l'a vu, les modes de déplacement actifs, donc la marche, le vélo, mais ça va être aussi des modes de déplacement partagés, comme le covoiturage, l'autopartage en fait, c'est l'idée de dire que ma voiture elle reste à l'arrêt 95% du temps. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire en m'attendant sur le parking, à la maison, dans le garage, etc. Bah, elle peut être partagée. Et puis les transports en commun et aussi le télétravail, le déplacement qui consomme le moins, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc comment je peux télétravailler de temps en temps pour réduire les déplacements.
Et la force de coercition là-dedans, ce n'est pas le bon mot, mais je veux dire, on connaît des entreprises qui font des primes au déplacement justement doux. Est-ce que c'est vers ça que vous faites aller les différentes entreprises ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de...
Effectivement, quand tout va bien, hein, on disait tout à l'heure pour certains, il n'y a pas de problème. Il va falloir trouver comment les inciter ou comment les motiver pour faire autrement. Et là, ça va vraiment être en les impliquant et en impliquant voilà, les directions des structures, comment trouver les leviers adaptés. Donc voilà, on peut citer effectivement des exemples. En Italie, il y avait eu effectivement un projet qui proposait d'identifier les trajets faits à vélo et d'offrir ensuite des bons d'achat pour aller en ville, consommer une bière, aller au cinéma, etc. de manière à éviter la circulation en voiture dans la ville. Donc c'est une idée parmi d'autres pour inciter les gens... à se déplacer autrement qu'en voiture. Il peut y avoir aussi l'aménagement ou l'urbanisme d'une ville qui va non pas mettre la priorité aux voitures, mais éloigner un peu les parkings vélos, faire qu'on termine le trajet à pied, qu'on rapproche les parkings vélos. Donc ça va être effectivement pensé autrement.
Oui, éloigner les parkings voitures. Oui,
j'ai dit vélo.
Ouais, okay. C'est ça, bon.
Rapprocher les parkings vélos, éloigner les parkings voitures, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que les conducteurs ont beaucoup d'avantages et de privilèges. Et donc, c'est simple, en fait. On facilite vraiment le trajet en voiture. Donc,
ouais, comment, et quid des voies cyclables. Hein.
Exactement. Voilà. Comment faire la part belle aux pistes cyclables et aux vélos. On ne va pas pouvoir demander aux gens de se mettre sur des vélos si on n'a pas des aménagements sécurisés, des équipements. Donc, oui, ça va ensemble.
D'ailleurs, ça, on le voit. Est-ce que c'est vraiment en train de monter en puissance ce déplacement vélo et... face à un équipement qui, lui, n'y est pas encore en vallée de la Drôme.
Alors, la crise sanitaire a contribué, il y a un réel engouement pour la pratique du vélo. Je voyais là récemment une étude de Ville et Politique Cyclable qui mettait en avant une évolution en territoire rural de plus de 20% des passages vélos. Et on l'a constaté cette semaine sur Cray, sur le comptage annuel des vélos, la même proportion d'évolution de 20%. Donc il y a c'est réel, c'est un constat. On l'observe de plus en plus de cyclistes et c'est tant mieux parce que plus il y aura de cyclistes, moins il y aura d'accidents puisque les automobilistes s'habituent à avoir dans leur paysage des vélos. Par contre, en effet, il reste beaucoup de chemin à faire pour sécuriser un certain nombre d'itinéraires, notamment sur les départementales et l'accès aux villes et aux villages.
On fait un point sur ce challenge mobilité, puisqu'il était cité. Alors ça, c'est tous les ans, c'est à l'initiative de la région, mais il faut des relais en local et Drôme Olive, vous en êtes un.
Exactement, donc il y a les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui participent. C'est un événement qui a 10 années, enfin ça fait 10 ans que l'événement existe.
C'est que en Rhône-Alpes, pardon ?
C'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement. Donc il existe d'autres challenges en Aquitaine ou sur d'autres territoires, mais avec d'autres dates et d'autres modalités. Donc nous, on fonctionne effectivement sur une date commune donc qui normalement est au mois de juin et a été décalée au 22 septembre, mardi 22 septembre. Et c'est pour nous un temps vraiment précieux puisqu'il va proposer aux gens qui finalement n'ont rien demandé de faire autrement une journée quand ils ne le font pas déjà. Et sinon, pour ceux qui le font déjà, bah, ça les valorise et ça les met en avant et ça montre à ceux qui ne le font pas que c'est possible de se déplacer autrement.
Alors, l'objectif, c'est de se déplacer autrement. Donc, si on prenait toujours sa voiture tout seul, ben, faut au moins avoir un covoitureur avec ou faire du stop.
Exactement, télétravailler et ça va faciliter aussi la relation avec son employeur ou en interne. Comment en fait, voilà, aujourd'hui,
ça crée des précédents. Hein.
Exactement, c'est ça. Et donc souvent quand on parle justement de tester un nouveau mode de déplacement, il y a deux types de déplacements. Il y a les trajets contraints, donc ceux du domicile-travail, et il va y avoir les trajets choisis quand je vais me balader, quand je vais en vacances ou j'ai tout mon temps. Généralement, on va tester un nouveau mode de déplacement quand on n'a pas de contrainte horaire. Là, on a l'opportunité de le faire sur un temps justement contraint. Je dois arriver à l'heure au boulot, je dois prendre mon train, etc. Et donc, il y a effectivement la possibilité de tester. Donc, il faut saisir cette occasion pour en plus de ça, contribuer à l'échelle régionale d'une communication.
Alors, explique-nous un peu votre travail Drôme Olive, là, parce que vous allez contacter les entreprises ou les salariés eux-mêmes, qui pousse qui à faire quoi?
C'est ça, et là, c'est un peu la magie effectivement qui s'opère ou pas. Mais l'idée effectivement, c'est qu'il faut un premier contact dans une structure. Alors soit ça va être dans notre réseau relationnel, soit de bouche en oreille, des gens qui entendent parler de l'événement qui nous contactent. Et nous, on peut les accompagner pour faire toutes les démarches administratives de saisie, d'enregistrement sur la plateforme. Parce que finalement, voilà, c'est ce qui compte pour eux, c'est plutôt le jour J de s'organiser. Nous, on peut prendre cette partie administrative. Et après, il est possible de rester soit sur du déclaratif, c'est-à-dire nous, on fait déjà ça au quotidien, on vient déjà à vélo, etc. Ou on peut essayer de faire plus et de reporter des trajets qui habituellement sont faits seuls en voiture, de les reporter sur finalement un déplacement à vélo ou en covoiturage. Donc ça demande à l'entreprise ou à la collectivité de communiquer en interne, d'organiser un petit temps d'échange dans les jours qui précèdent avec les salariés pour qu'ils puissent justement s'organiser. Donc on peut pour ça mettre une carte au centre de la table ou de la pause café pour dire bah, « voilà, moi j'habite là », etc. C'est l'occasion d'en parler, de se saisir de ce sujet. Mais après, effectivement, il faut que l'employeur valide à un moment donné l'inscription ou donne son accord.
Alors, comme je disais, ça crée des précédents. Par exemple, si effectivement, pour une fois, il accorde du télétravail, après, on peut se demander si ça
et
peut pas être régulier.
Oui, complètement. c'est très bien. Voilà. Ça veut dire qu'effectivement, il y a toute une évolution des habitudes qui peut s'opérer à cette occasion. Et d'ailleurs, plus de 50% des gens qui ont fait autrement ce jour-là peuvent ensuite, sont amenés à maintenir ce changement d'habitude quand ça se représente. Donc on voit qu'il y a un effet réel. Ça, c'est donc effectivement d'une part. Et d'autre part, on constate que 70% des gens font autrement le jour du challenge mobilité. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel, quoi. Si on y met du sien, il y a une marge de manœuvre. Elle n'est pas au quotidien parce que ça demande des concessions, de partir un peu plus tôt, de covoiturer. Donc c'est moins confortable, mais ça montre que c'est possible. Et dans la moitié des cas, ça se reproduit ensuite.
C'était un peu la question suivante, là. Qu'est-ce que vous avez mesuré de ces journées-là? Est-ce que il apparaît des nouvelles contraintes? Par exemple, les horaires de train sont pas du tout adaptés pour 90% des entreprises du territoire. Qu'est-ce qu'il faudrait refaire? Est-ce qu'il manque d'air de covoiturage?
Alors ça, effectivement, ça permet de l'identifier. Nous, quand on a l'information qu'elle revient à nous, on peut échanger avec la région ou le département selon la compétence pour faire remonter en fait les besoins des usagers. Après, c'est souvent dans l'autre sens que les choses peuvent être évoluées, c'est-à-dire adapter les horaires de travail quand c'est possible pour favoriser du covoiturage. Alors, ce n'est pas toujours évident. Des fois, dans des équipes de production, on a chacun nos habitudes et on ne souhaite pas être sur tel horaire, etc., même si c'est notre voisin et que ça pourrait favoriser du covoiturage. Mais c'est vrai que ça amène au moins un espace de discussion. Et au moment des recrutements, au moment de la réorganisation des plannings, on pense aux déplacements, ce qui n'était pas toujours le cas avant.
On en a cité deux là dans le DIWA, mais est-ce qu'il y a des entreprises pour qui c'est justement carrément gravé dans le marbre, il faudra se déplacer autrement quand on se fait recruter là.
Ah oui, oui, effectivement, ça devient un réflexe. De toute façon, c'est la mobilité un frein à l'embauche. 70% des stagiaires ou des personnes en recherche d'emploi mettent la mobilité comme un frein au recrutement.
Là, s'il n'y a pas écrit permis B, on ne se fait pas embaucher.
Alors oui, ou ça peut être tout simplement parce que venir au travail en transport en commun, c'est trop compliqué. Par exemple, habiter, selon les endroits où on habite, on ne peut pas forcément trouver un travail. Ou à l'inverse, si l'entreprise est dans un lieu très isolé, certains qui n'auraient pas leur voiture se voient de fait exclus parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Donc c'est pas écrit effectivement comme ça, mais oui, c'est discriminant de ne pas avoir d'offre de transport ou de mobilité pour venir au travail. C'est un vrai sujet. Là, on parle de la mobilité inclusive dans ces cas-là, c'est-à-dire toutes ces personnes qui n'ont pas de moyens de déplacement pour aller au travail.
Et enfin, est-ce que ça peut impacter sur les politiques du département qui assure une partie du déplacement de la SNCF,
sur les politiques régionales,
régionales aussi, les TER, bien sûr.
Les déplacements, donc la compétence transport, elle appartient à la région. Et oui, c'est la région qui a l'initiative de cet événement. Et ça permet effectivement de faire connaître les solutions pour se déplacer autrement.
Mais est-ce que ça augmente? Est-ce qu'il y a plus de bus? Est-ce qu'on se met à desservir les
zones
un peu?
Alors, il y a des offres qui sont proposées pour inciter les gens à les prendre, parce que souvent, l'offre existe, mais elle n'est pas saisie. Par exemple, ce matin, j'étais toute seule dans mon train, dans mon car qui partait de Cray à 7h20. Voilà, est-ce que les gens savent qu'il y a un car qui part à 7h20, qui arrive à... Non, pardon, à 7h37 et qui arrive à 8h20 ici. Voilà, en fait, les gens souvent ont perdu l'habitude ou le réflexe d'aller consulter les fiches horaires pour organiser leur trajet. Donc nous, on est là aussi pour accompagner cette démarche d'éco-mobilité. C'est-à-dire que le tout voiture, c'est je sors de chez moi, je prends les clés, je démarre et je pars. Et l'éco-mobilité, c'est anticiper la veille. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un car? À quelle heure je reviens? Est-ce que, voilà, ça demande effectivement une démarche qui n'est plus évidente aujourd'hui. Donc c'est surtout aussi faire connaître l'offre, parce que souvent elle est méconnue. Et puis aussi faire remonter des besoins, notamment dans des zones d'activité qui sont très mal desservies parfois parce qu'elles ont été créées après l'offre de transport, d'identifier pour faciliter effectivement le déplacement des salariés.
Et créer des nouveaux arrêts peut-être
Oui, ça crée des nouveaux arrêts, tout à fait. Mais là, je vois notamment sur Jaillance, en fait, il ressort que la moitié des salariés habitent dans Die. Donc, il y a effectivement un vrai potentiel de déplacement à vélo, là, dans cette situation, ou de covoiturage pour ceux qui sont plus éloignés.
Est-ce qu'on peut identifier quelque chose qui expliquerait pourquoi est-ce que les gens sont en tout voiture, au-delà du pur confort? Est-ce qu'il y a une problématique sociale derrière? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un engouement aujourd'hui? C'est l'écologie, le Covid non, c'est,
alors oui, il y a la prise de conscience, effectivement, il y a urgence, en fait. En fait, la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, elles sont liées au transport routier, donc c'est nos voitures. Et par ailleurs, la moitié de ces trajets sont des trajets très courts, qui font moins de 3 km la plupart du temps. Ça va vraiment être pour traverser la ville de part en part. On a le réflexe voiture. Donc c'est comment casser l'image en fait, de la voiture et puis retrouver des habitudes, se déplacer à pied sur un kilomètre. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, ça fait du bien, ça entretient la santé, ça augmente l'espérance de vie. Sur la pratique du vélo, la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, mettait en avant qu'il y avait 20% plus de bénéfices de faire du vélo que de risques, apportés par le vélo, que de risques d'en mourir ou d'avoir un accident, puisque voilà, ça fait faire de l'activité physique, ça permet de s'aérer, de se changer les idées, de retrouver un espace à soi, d'être plus connecté à son environnement.
Donc on est vraiment dans la période où il faut faire de la pédagogie.
C'est ça. Et puis, vous l'avez souligné juste avant, il faut qu'il y ait de l'offre. Il faut qu'il y ait, effectivement, je parlais de l'offre qui était méconnue, mais elle est quand même insuffisante pour pouvoir répondre à toute la demande. Donc il va falloir effectivement mieux structurer cette offre pour qu'elle réponde aux besoins fins du territoire. Pour cela, il y a une démarche, un cadre législatif nouveau. C'est la LOM, la loi d'orientation sur les mobilités, qui a été votée en décembre 2019 et qui propose, dans son cadre, aux collectivités territoriales, notamment les intercommunalités, de se positionner sur la compétence mobilité avant le mois fin mars 2021. Donc ça implique effectivement de répondre à des vrais enjeux. Est-ce que les intercommunalités, en prenant cette compétence, auront les moyens d'organiser les transports à l'échelle locale?
Et tu sens une volonté politique là quand même?
Oui, en tout cas, il y a des vrais questionnements. Les collectivités posent le sujet parce que c'est nouveau. Il y a la volonté, mais est-ce qu'il y a la cohérence derrière et les moyens qui sont donnés pour le faire? Donc il y a des vrais sujets. Nous, on accompagne l'intercommunalité de Die sur cette question-là. On a une réunion prochainement avec la région, le département, pour mieux cadrer, expliquer qu'est-ce que cela recouvre en termes de compétences, de moyens, de manière à aider les élus à se positionner sur ce sujet. Donc c'est le moment, effectivement, où chacun se positionne. Après, au niveau de la région, on a un directeur des transports qui est très impliqué et qui a bien saisi que sur le territoire, Vallée de la Drôme, d'Iwa, il y avait une volonté, des acteurs qui sont présents, des collectifs qui font remonter les besoins. Donc, on sent une écoute qui est faite pour faire évoluer l'offre Donc à chaque renouvellement de délégation de service public, les collectifs sont invités pour sont consultés en tout cas pour définir les nouvelles fiches horaires.
Et ça se voit.
Oui,
c'est ça la question.
Je
voulais être sûr qu'on voit que ça,
c'est,
que ça évolue. Ouais, quoi,
est-ce que ça se voit? Ça va vraiment être une question d'information. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a une nouvelle navette, alors plus sur le Crétois, qui permet de rejoindre Cray et Valence TGV. Voilà, il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens puissent s'organiser. C'est vrai que derrière, il y a toute une logistique de déposer les enfants, faire ses courses, rentrer du travail. Donc, c'est comment chaque famille aussi se réorganise avec l'offre. Donc, ça demande toujours un petit temps. Et les gens sont très contents, dès qu'ils ont l'information, de pouvoir s'organiser dessus. Après, toute la difficulté, c'est qu'il faut que l'offre soit maintenue parce que les gens ne vont pas s'organiser et se réorganiser toute l'année. C'est vrai que ça peut être vite stressant, les modes de transport. Donc, c'est effectivement important qu'il y ait un cadencement et une fréquence qui permettent à chacun de s'organiser toute l'année.
Et par exemple, tu mentionnes la communauté de communes. Par exemple, j'ai pas de voiture. Je connais pas mal de gens sur 10 qui n'ont pas de voiture. Quel genre de service vous imaginez pour, par exemple, on veut un week-end, on veut partir dans la nature, un peu plus loin que 10 ou... Une journée, on a un petit service, allez, on doit aller voir le médecin qui est un peu plus loin parce qu'à 10, c'est plein, il n'y a pas d'offre.
Alors déjà, il y a une partie de l'offre qui existe. Donc, il y a des transports à la demande qui sont proposés. Donc, on a fait une fiche mobilité qui réunit toutes les offres de transport et tous les contacts, tous les services sont listés. Donc, vous verrez, vous découvrirez qu'il y a du transport à la demande. Il faut appeler la veille et puis vous pourrez aller à tel endroit. Alors, par contre, c'est un peu moins flexible qu'une voiture parce qu'il faut se caler sur les horaires. Mais vous pourrez voir qu'il y a un service minimum qui est proposé. Et après, le questionnement aussi du moment, si effectivement il y a des moyens qui permettent d'offrir un service à la hauteur. Mais il y a le questionnement sur la mise en place de navettes qui permettent de desservir plus finement le territoire et d'éviter d'arriver en voiture dans le centre de Dîmes et pouvoir éventuellement, pour les gens qui habitent dans des villages à l'extérieur, arriver en voiture à un endroit et puis terminer en navette, ou l'inverse pour des habitants de Dîmes qui voudraient sortir, qui aient effectivement une navette qui puisse rejoindre plus facilement des villages ou des hameaux. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel nous, on avait fait un atelier dans le cadre des rencontres de l'écologie à Dîmes, je crois que c'était fin janvier 2020, sur lequel effectivement on avait pu dans un premier temps échanger sur le sujet, c'est quoi une navette, quels sont les types de navettes qui existent ailleurs, par qui elles sont portées, combien ça coûte, etc. Et dans un deuxième temps, on avait fait un atelier plus pratique avec des cartes de Dîmes et du Dîois à 5 km autour de Dîmes. Pour identifier quel serait le trajet de navette idéal et quelles seraient les conditions pour que je prenne cette navette. Il faut penser la navette comme un équipement accessible où je puisse venir à vélo, où je puisse venir à pied pour continuer mon trajet. Donc il y a effectivement, c'est tout un ensemble. Comme je le disais, avec la ville de Dîmes et l'intercommunalité, il y a une volonté de mettre de la cohérence pour pouvoir répondre aux besoins.
Et également, est-ce qu'il y a des projets d'autopartage qui sont dans les tuyaux ou envisagés? Je sais qu'il y en a un à Cré, j'avais entendu parler d'un projet qui existait à Cré. Je ne sais pas s'il y en a sur 10.
Oui, très bien. Alors du coup, ça me permet de faire le lien avec un autre sujet qu'on voulait aborder, qui est le programme d'investissement d'avenir, qu'on appelle aussi le TIGA, qui est un financement de la Caisse des dépôts, pour lequel l'association Biovallée, pour le compte d'un consortium et des trois intercommunalités, a répondu. Nous, Dromo Libre, on y a porté deux actions, deux opérations, dont une porte sur l'autopartage, justement. Donc, il y a plusieurs formes d'autopartage. Donc, effectivement, il va y avoir l'autopartage entre particuliers que tu évoquais juste avant. Donc, il y a l'exemple sur Cray, à Saillant. Je crois qu'il y a un collectif sur 10 aussi qui voulait le monter, en lien avec le collectif Piéton notamment, qui consiste là à mettre des particuliers en relation. Donc, c'est souvent une association qui se constitue. Et puis, c'est une communauté d'habitants qui se connaissent. Donc, la confiance est une donnée importante pour prêter sa voiture. Et il y a une indemnité symbolique qui est souvent entre 24 centimes et 30 centimes du kilomètre pour quand on prête sa voiture. Et puis après, il y a la possibilité d'offrir un service plus structuré qui serait plus de la location, on pourrait dire, mais tout en restant accessible avec des voitures. Alors peut-être aussi l'atelier de Dîmes le propose avec la voiture électrique.
Ouais, l'espace social.
Voilà,
aussi.
L'espace ouais, social, ouais. Voilà. Du coup, mais l'idée de d'avoir une communication plus grand public et auprès des salariés, des habitants, pour justement partager des voitures. Donc, on a une opération sur ce sujet qui seront sous forme d'expérimentation sur la vallée de la Drôme. Et puis après, effectivement, rapidement, dans le DIWA, ce qui est important aussi à noter, c'est qu'il y aura un comité qui implique les habitants. Donc, vous serez informés du lancement, de manière à ce que, en plus des études de faisabilité et d'opportunité qui seront réalisées, mais de manière à ce que les habitants puissent, enfin, qui sont les usagers directs, puissent vraiment faire remonter les fonctionnements, dysfonctionnements, etc.
Et on accueille à l'antenne Philippe Huyghe de BioVallée. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on était justement en train de parler de ce financement lié au TIGA pour Dromolib sur la question du vélo auto-partage. Oui. Philippe, un petit mot sur le TIGA rapidement pour nous redire ce que c'était. Et puis on va se concentrer sur cette opération.
C'est un appel à projet national qui a été lancé par l'État, qui a été organisé par la Caisse des dépôts et consignations avec son pendant Banque des territoires. 24 lauréats ont eu le plaisir d'être sélectionnés pour toucher à la fois des subventions, mais aussi des participations dans le capital d'entreprise. Donc, à notre niveau, au niveau de la BioVallée, on a touché une petite vingtaine de millions, dont deux tiers vont être affectés à cinq projets d'entreprise pour les aider dans leur développement ou dans leur innovation. Et un tiers va à un certain nombre de subventions sur plusieurs axes, l'agriculture, la mobilité, puisqu'on parle de Dromolib aujourd'hui, mais aussi l'énergie et l'économie circulaire, notamment avec les déchets. Donc, on a eu le 11 septembre la visite sur le territoire du Premier ministre et de quatre de ses ministres pour venir nous à la fois annoncer tous les lauréats et donc donner la primeur de cette information à notre territoire rural, puisqu'on est un des seuls territoires ruraux à avoir gagné cette série de subventions. Et on en est particulièrement fiers.
L'occasion de rappeler donc que BioVallée couvre les trois intercommunalités, c'est-à-dire celle du DIWA, celle de la 3CPS, hein, cœur de Drôme, pays de Saillant, et puis celle du Val de Drôme. Et donc cette action vélo-auto-partage, alors comment elle va s'organiser? Quel financement déjà est apporté par BioVallée?
Eh bien, le total du financement, le montant des dépenses générales sur l'axe mobilité est à peu près de 3,5 millions, dont 1,3 million vont être subventionnés par le TIGA, hein, donc le territoire d'innovation. Ce qu'on recherche surtout, le résultat principal, c'est la réduction du nombre de déplacements en voiture individuelle, sa conséquence, qui est une baisse de la part des émissions de CO2 liées au transport de personnes. Il y a tout l'aspect circulation en vélo, promotion du vélo sur le territoire, qui est mené par Dromolib, mais pas seulement, puisque la 3CPS, elle, promeut la location de vélo sur des périodes plus longues, hein, de 6 mois ou un an, avec on mettra en place des possibilités d'options d'achat du vélo à la fin de la location. On travaille aussi sur une possibilité d'organiser massivement le covoiturage par le déploiement d'une application mobile. Alors, on a une solution qui est tombée un peu dans l'impasse, un peu trop compliquée, où les cofinancements n'ont pas été trouvés. Mais on a bon espoir de trouver une solution intelligente pour favoriser largement le covoiturage sur le territoire.
Et c'est ce pour combien de temps?
Alors le déploiement de l'opération TIGA sur la totalité des actions, c'est 8 ans. On a déjà touché une partie de l'argent, hein, et donc il est disponible pour le distribuer. On a déjà donc envoyé un virement à Drobolib, qui était le premier dossier qui a été subventionné. J'ai signé pas plus tard qu'hier 3 autres dossiers, donc les virements vont être faits d'ici la fin de semaine. C'est 3 dossiers sur l'agriculture. Et puis on espère que les dossiers vont vite se caler, que les conventions de reversement vont être faites rapidement, parce que plus vite on injectera de l'argent au niveau des porteurs de projets, bah plus vite ces projets pourront se déployer, et c'est ce qu'on cherche, hein, c'est que l'argent ne dorme pas, mais qu'au contraire, il permette un déploiement rapide.
Philippe, merci pour ce petit encart et nous permettre de comprendre un peu où va le TIGA.
Ça se passe bien, et les équipes sont tout à fait mobilisées et très motivées à ce que ça aille rapidement et efficacement.
Belle journée.
Merci, au revoir.
Au revoir. À bientôt.
Et Morgane, alors donc, il y en a pour combien de temps sur le vraiment purement le dossier Drobolib?
Oui, c'est ça. Nous, notre opération, effectivement, se déroule sur 5 ans. Donc, voilà, le temps de permettre, effectivement, la période d'études, diagnostic, mise en place, expérimentation, et surtout pouvoir expérimenter à plusieurs endroits, aussi bien donc dans les villes-centres, on va dire, les villes-bourgs, que dans les hameaux pour rejoindre les villes-centres. L'idée, effectivement, c'est de penser aussi comment je rejoins les services, etc.
Et là, Philippe disait que, enfin, nous faisait apparaître déjà des différences entre le traitement de la mobilité par les 3 interco. Comment c'est possible?
Donc,
comment est-ce que vous gérez ça?
Il y a dans le volet mobilité de mémoire, je crois, 7 opérations. Et effectivement, au moment du dépôt de la candidature, chaque porteur de projet est venu se positionner. Et la communauté de communes du Crétois et Pays de Saillant est venue proposer une opération pour justement l'achat de vélos assistance électrique, pour justement faciliter la possibilité d'offrir des locations longue durée. Aujourd'hui, les locations, elles sont de 15 jours et sont vraiment des essais finalement de vélos qui sont des outils d'aide à la décision d'achat. Et là, l'idée, c'est d'offrir un service qui permette aux gens d'essayer plus longtemps, donc sur une année, etc., avant d'acheter. Et c'est vrai que c'est un besoin qui a été identifié. Et ce n'est pas grave si ce n'est qu'une intercommunalité qui propose. Ça lance déjà la dynamique et ça va donner des idées aux autres de faire pareil ou de faire mieux.
Donc, alors, on va dire que vous comptez sur le fait que chacun a pris un peu des initiatives, puis qu'au bout d'un moment, tout se lisse.
Exactement,
quoi.
Chacun. Et puis, c'est pas évident de se projeter, en plus, sur, comme on le voyait tout à l'heure, la mobilité ou la compétence transport est au niveau de la région. Donc là, les intercommunalités se positionnent sur un sujet sur lequel, effectivement, on tâtonne pour savoir comment y aller, quoi offrir, etc. Et c'est important aussi d'être très en lien avec les acteurs qui sont sur le terrain, de ne pas faire concurrence aux vélocistes, par exemple, et bien comprendre qu'il y a une complémentarité. Et souvent, donc nous aussi, on a une petite flotte de vélos assistance électrique, on renvoie nos adhérents ou les usagers vers les vélocistes pour justement l'achat. Donc c'est important de montrer qu'il y a une complémentarité et puis de trouver toutes les solutions pour que chaque habitant, quel que soit l'endroit sur la vallée, puisse profiter de ces services.
Et oui, comment ça se gère ce rapport privé-public? Voilà, il y a quand même un certain nombre de vélocistes. Oui, ça monte en puissance, ces offres-là.
Bah, il faut vraiment avoir le recul pour comprendre qu'on est tous au service du même objectif et puis de montrer effectivement que c'est complémentaire. Louer des vélos, c'est pas rentable. Donc, c'est plutôt le bienvenu que ce soit porté. Enfin, louer des vélos, je veux dire, sur une comme c'est le cas aujourd'hui sur des essais sur 15 jours. Ce sont des offres qui sont proposées à 20 € les 15 jours. On n'est pas du tout sur une offre touristique. Donc ça concerne des gens qui habitent le territoire. Il faut prouver le justificatif, il faut le justifier, etc. Et après, effectivement, ce sont des clients plus faciles qu'on renvoie vers les vélocistes du territoire.
Est-ce qu'il faudrait peut-être plutôt s'attendre à ce que ce soit un vrai service public gratuit pour être sûr que tout le monde l'utilise plutôt qu'il soit monnayé
Par rapport aux 20 €?
Par rapport aux vélocistes, tout simplement.
Ah, oui.
Dont on sait, je voulais rajouter ça, qu'il y a quand même de l'entretien au vélo et que c'est ça qui, en général, fait c'est que ce n'est pas systématiquement rentable. Mais il y a cette question.
Il y a effectivement
transport gratuit ou
un marché. Donc il y a l'offre de mise à disposition de vélos et il y a aussi la prestation entretien qui va avec et qui est réalisée par les acteurs locaux. Mmh. Tout, c'est ce qu'on disait, hein, tout est en train de se mettre en place, de se tester, etc. J'entendais qu'il n'y avait plus assez de vélos dans les magasins à vendre, qu'il y avait un peu une pénurie, que ce n'était pas évident. Et on voit le succès des bourses au vélo. La semaine dernière, il y a eu effectivement sur Creil, il y aura ce week-end la bourse au vélo sur 10 dans le cadre de la bicyclette. Et on voit effectivement à quel point c'est important aussi pour compléter... pour compléter l'offre. Et puis, les bourses au vélo répondent aussi beaucoup aux besoins des familles avec enfants qui grandissent. Et puis, on n'achète pas les vélos de la même manière.
Et puis, on fait tourner.
On fait tourner les vélos,
etc. On pose
les
plus petits.
Voilà, exactement. Mais voilà, ce qui est important, c'est de voir que ça bouge, que chacun se saisit du sujet. Et il n'y a plus qu'à, du coup, oser tester, y aller. Et nous, tous les jours, depuis la rentrée, depuis début septembre, on est sollicité par des habitants qui nous disent, voilà, j'ai deux voitures. Bon, ma deuxième, elle est un peu en fin de vie. Je ne vais pas la remplacer. Comment je fais? Est-ce que vous pouvez m'aider, m'accompagner? J'ai quoi comme solution pour faire autrement? Donc, du coup, effectivement, il y a la possibilité de tester des vélos, renvoyer vers des vélocistes pour trouver le vélo qui va bien, avec le budget qui va bien. Et puis, c'est aussi, j'en parlais un peu, proposer des séances de vélo-école. Les gens, souvent, ont peur. En fait, ce n'est pas la même chose de faire du vélo le week-end et de faire du vélo dans la semaine, sur les heures de pointe. Donc, pour justement assurer les cyclistes.
C'est quoi, c'est un petit temps entre 17 et 19, là, sur les axes bien pleins?
Ouais. Exactement, c'est pas évident. J'accompagnais avant-hier une dame. En plus, on avait effectivement rendez-vous à 17h, le pire horaire quand on est cycliste, avec les gens qui veulent rentrer chez eux. Et puis, comment, moi, cycliste, je prends ma place sur la chaussée. Je n'incite pas les véhicules à me doubler au risque de provoquer un accident en osant prendre ma place. Parce que, et puis tant pis.
En restant au milieu.
À un mètre. Effectivement, il y a des endroits où on ne peut pas être doublé. Et puis apprendre à ralentir aussi le rythme et inciter les automobilistes qui peuvent le faire sur des trajets courts à prendre la place du cycliste. Bien équipé, avec les sacoches qui vont bien, on peut transporter des enfants. Pas dans les sacoches, mais sur les sièges. Ses courses, son sac à dos, etc. On s'aperçoit que ça coûte beaucoup moins cher de s'équiper sur un vélo confortable. Avec le bon caouet, on est même moins mouillé quand il pleut que garé en voiture. Donc on s'aperçoit très rapidement que ce sont des nouvelles habitudes qui font qu'en plus, on a le sourire.
On a le sourire.
C'est vrai.
Oui, non, mais c'est vrai. Est-ce que ça fait partie justement des services dont tu parlais tout au début qui sont mis en place par Drôme Libre? Y en a-t-il d'autres?
C'est ça. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on développe. Donc là, service de vélo-école, jusqu'à présent, elle s'adressait aux entreprises. Aujourd'hui, c'est vraiment l'idée d'être aussi auprès du grand public. Donc, on a parlé de l'autopartage, du vélo-partage. Mmh. Et une autre opération qu'on va signer dans les prochains mois en lien avec le PIA, donc le TIGA, concerne... l'assise du coup d'une agence de mobilité qui a pignon sur rue. Donc là, jusqu'à présent, on est dans les bureaux de l'usine vivante qui est un tiers-lieu à Creil, qui n'est pas un espace ouvert au public, c'est sur rendez-vous. Là, c'est vraiment l'idée d'être ouvert au public et d'avoir aussi des antennes. Donc tout ça va se travailler en lien avec les habitants sur en tout cas cette année à partir de janvier 2021. Et qui est un bus qui se déplace aussi sur la Biovallée pour amener l'information auprès des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Mais ce bus, on l'a pensé non pas comme simplement amenant de l'information, mais amenant aussi des services. Et c'est la volonté de rendre service, de rendre itinérante la vélo-école et des ateliers réparation vélo. Donc ce projet-là, l'idée, en fait, moi j'aimerais que ce bus... et les logos de tous les collectifs et tous les acteurs locaux qui veulent faire du hors les murs pour pouvoir aller plus loin, aller dans des entreprises, aller dans des hameaux, et puis en travaillant ensemble un modèle qui convient bien pour permettre d'avoir plus de visibilité grâce justement à ce financement qu'on s'est donné les moyens d'aller chercher. De trouver. Ouais.
Parce que déjà, des garagistes, on n'en trouve plus beaucoup, mais alors des garagistes de vélo, c'est...
Exactement, les ateliers réparation vélo, pénurie, donc du coup, effectivement, ils sont tous en plus overbookés, complets, c'est très compliqué. Les ateliers réparation solidaire, sont effectivement un peu en difficulté aussi par rapport aux bénévoles qui s'épuisent, donc il faut trouver l'équilibre et se ménager, et du coup c'est comment donner un peu une bouffée d'air et trouver ensemble avec les collectivités l'itinéraire qui convient, l'organisation. Donc on a 5 ans devant nous, on va le réaliser avant évidemment, mais en tout cas sur ces 5 années on est garanti de pouvoir impulser des nouvelles habitudes pour faciliter la mise en place d'un système complémentaire à la voiture.
Si on parlait franchement, est-ce qu'il est bienvenu ce financement pour Dromo Libre dans le cadre de Beauvallée justement, ou est-ce que ça allait sans ça
Alors nous on avait un gros enjeu, c'est l'occasion du coup effectivement d'en parler. On est principalement financé par un financement européen qui passe par la région, un fonds FEDER, et comme certains le savent, ces financements demandent d'avoir une vraie trésorerie et un fonds de roulement qui permet d'attendre les délais de versement qui sont très longs. À titre d'exemple, sur toutes les dépenses réalisées en 2019, au mois de septembre 2020, on n'a toujours pas été versé de cette subvention.
C'est à 2 ou 3 ans de décalage.
C'est ça, deux ans, on va dire, c'est la moyenne. Donc ça demande effectivement de trouver des solutions de trésorerie, etc. Et nous, on avait un vrai enjeu sur 2019, c'était de diversifier nos financements pour ne plus être dépendant du fonds européen. Donc on est allé candidater sur des certificats d'économie d'énergie dans le cadre du coup du TIGA, en faisant appel à d'autres fondations, etc. Et effectivement, on a beaucoup travaillé sur l'appel à candidature du TIGA pour diversifier nos financements et puis soulager notre dépendance au fonds européen. Donc oui, c'est vraiment, vraiment le bienvenu, et c'est le bienvenu pour le territoire, parce que nous, on est un outil au service du territoire complémentaire pour faire le lien entre la région, les collectivités, les habitants, les collectifs, etc.
Et oui, et ça paraît étonnant d'ailleurs que les collectivités ne soient pas hyper partie prenante, parce que là, on voit un service par une association... qui développent...
Alors, elles le sont de plus en plus.
Voilà.
Et c'est effectivement une volonté politique.
C'est l'occasion de le dire.
Mais effectivement, avec le DIWA, la communauté de communes des communes du DIWA, on est soutenu depuis 2018, effectivement, avec une subvention qui vient en cofinancement de notre plan, de notre financement européen. Et puis, comme on le disait, ça a été effectivement une bonne initiative puisqu'elles n'ont pas la compétence mobilité. Donc, et ça veut dire qu'effectivement, on est vraiment, nous, positionnés comme un animateur et on accompagne aussi la collectivité pour lui donner plus de moyens et puis faciliter les retours d'expérience, parce qu'on travaille aussi avec le Vercors, parce qu'on travaille avec les baronnies, parce qu'on travaille
la Drôme en entier.
Voilà, avec la Drôme, avec Dieulfit-Bourdeaux.
Oui, parce qu'on parle de Beauvallée, mais en fait,
on travaille
vous
à l'échelle de toute la Drôme, exactement. Donc on était avant-hier, la semaine dernière à Donzère, dans le cadre de leur plan climat, air, énergie. Donc c'est intéressant parce qu'on va du coup pouvoir parler du DIWA chez eux, pouvoir parler de leurs expériences ici. Et ça a fait avancer la mobilité parce que chacun tente, expérimente, se questionne.
Et avec des problématiques vraiment différentes.
Avec des problématiques différentes. Après, en territoire rural, on retrouve quand même la prépondérance de la voiture comme mode de déplacement, ou des espaces qui n'ont pas été pensés pour se déplacer autrement. Donc, il faut,
même nous, on avait mesuré du diesel carrément, parce que les distances étant trop longues, parfois le véhicule à essence ou électrique ne peut pas non plus...
Oui, complètement. Donc il y a vraiment effectivement c'est le moment de penser, notamment dans le cadre des PLUI,
plans locaux d'urbanisme intercommunaux,
de penser la ville de demain, le territoire de demain, systématiquement des espaces pour mettre des vélos cargo, des espaces pour penser les stationnements vélos, pour organiser des cheminements piétons qui sont différents des voies voitures et qui sont plus courts et qui souvent existent déjà mais demandent à être maintenue et surtout pas coupée à l'occasion des lotissements.
Et puis, on avait entendu parler de quelque chose, je crois, au moment où, justement, ils inauguraient ce plan Tiga à Biovallée, d'idée de réouvrir plus de gares sur cette ligne de train pour faire partir des transports en étoile à partir des gares, plutôt que d'avoir des grandes lignes,
on milite vraiment, effectivement, et on soutient effectivement l'idée du potentiel d'ajouter des arrêts, et autant que possible, surtout des arrêts qui existent déjà, pour faire de cette
ligne,
merci. Ouais. Une sorte de TER, quoi, avec des arrêts qui permettent aux gens vraiment de s'organiser. Mais comme on le disait, il faut qu'il y ait un cadencement suffisant pour pouvoir s'organiser. À noter aussi que la ligne sera en travaux pendant 9 mois, donc de bons espoirs à l'issue des travaux d'avoir une ligne effectivement plus sécurisée et sur lequel il faut remettre des trains.
C'est ça, pourront plus se croiser. Donc objectif, plus de trains. T'as dit TER, mais tu voulais dire RER.
Oui, RER, je voulais dire RER, merci. C'était pour voir si tu suivais.
je suis.
Oui, exactement, RER pour vraiment pouvoir desservir. Et puis se servir de la ligne de chemin de fer comme une colonne vertébrale avec des rabattements qui vont vers la ligne de chemin de fer pour poursuivre son itinéraire.
Voilà, pour donner un exemple, il n'y aurait plus de ligne de bus dit Valence, mais plutôt des lignes de bus qui ramènent à dit. Des lignes de bus qui ramènent à Cré, qui ramènent
pour certains itinéraires, et que les petits villages ne s'inquiètent pas quand ils sont desservis par des arrêts, ce sera maintenu. Il y aura aussi une desserte fine, effectivement, mais qui rabat plus vers les centres-villes. Voilà, exactement. Et ça fait le lien avec les navettes dont on parlait effectivement tout à l'heure pour aller vers les centres-bourgs. Et ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire comment je commence mon trajet à pied ou à vélo, je le poursuis en train, je le termine en covoiturant, trottinette, etc.
Et si on est un particulier, là, pour avoir un peu une synthèse de tout ce qui existe et ce qui est dans les tuyaux, où est-ce qu'on va pour avoir l'information ? Tu parlais de la fiche mobilité.
Oui, alors nous, effectivement, on a une fiche mobilité qui est sur notre site internet et j'en ai une là et je vous la laisserai du coup pour la radio. Elle est auprès des offices du tourisme, etc. Et d'ailleurs, on l'a travaillée avec eux. Et après, nous, Dromolib, on a sur notre site internet, qu'on est en train de refaire d'ailleurs pour qu'il soit plus lisible sur les nouveaux projets en fait, qui sont en cours, centrer l'information. Et après, c'est vraiment l'idée de cette agence de mobilité ou cette maison de la mobilité ouverte au public pour pouvoir se renseigner, pour connaître.
Et donc, c'est vraiment une antenne à dit.
Eh bien, j'espère bien qu'on pourra travailler ensemble le moment venu, parce que je sais qu'il y a déjà des dynamiques et une volonté là-dessus. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Du coup, c'est plutôt comment à travailler ensemble.
Et on est particulier, on a des besoins, on a des idées parfois. Si parfois on a le temps de les partager, on s'adresse à qui ? À Dromolib, à la mairie, à la Comcom, on écrit au département.
Alors effectivement, c'est
comment le mieux pour faire partager les besoins du
quotidien ? Celui qui vient d'arriver sur le territoire, souvent il nous contacte nous. Enfin, on a pu observer des gens qui venaient d'arriver. D'ailleurs, là tout à l'heure, on parlait d'un nouvel entrepreneur d'Andy sur les transports de marchandises à vélo. Souvent, effectivement, il arrive à nous identifier sur Internet et donc on est la porte d'entrée. La plupart du temps, les gens connaissent les collectifs et font tout seuls et très bien. Et à un moment donné, quand il y a un blocage, ils finissent par nous identifier et on arrive ensemble souvent à faire avancer les choses. Donc avec le collectif Piéton d'Iwa, notamment, on a beaucoup échangé et pu structurer certains points, les associer à certains moments pour qu'ils puissent rencontrer d'autres expériences, parler de leurs difficultés, de leurs besoins, etc. Donc ça se fait en réseau, donc soit pour répondre et restructurer ma réponse, soit vous connaissez déjà les acteurs et dans ces cas-là, ça se fait très bien tout seul, il n'y a pas besoin de nous, soit la personne, elle arrive et puis en effet, nous, on peut aider, mettre en lien.
Et réorienter.
Réorienter, dire « Ah, bah tiens, sur l'autopartage, je connais aussi une initiative à tel endroit, va les contacter ». Voilà, on va faire le lien où « Ah ben en ce moment, il n'y a rien, je note ta question, on revient vers vous quand ça se présente ». Et voilà, et on vous met sur notre lettre d'info, comme ça on garde le contact et on peut échanger facilement. Mais en général, voilà, le monde est petit et on se retrouve forcément à un moment donné lors d'une initiative. Voilà.
Morgane Régnier, pour terminer, sur Drôme au Libre, c'est une association, je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a une vie associative. On peut devenir adhérent et on peut participer à l'AG qui sera très bientôt.
Exactement, donc on tient notre AG le samedi 3 octobre de 15h à 17h, donc à l'ancien monastère de Sainte-Croix. À l'initiative de l'association Biovallée, à la suite de la crise sanitaire, l'association Biovallée a proposé à tous ses adhérents d'organiser ensemble, pour ceux qui n'avaient pas pu le faire, comme c'était prévu souvent au mois de mai, juin, leurs AG.
Donc il y a presque 9, hein, je crois 9 ça. Ou 10 AG en même temps.
9 associations vont pouvoir tenir leurs AG à ce moment-là. Donc on est ravis voilà, de pouvoir impulser ensemble ce temps. Ouverte à tous, dans le cadre de la crise sanitaire, c'est quand même sur inscription, mais sur le principe, je ne m'inquiète pas. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet dromolib.fr. Et j'en profite du coup pour échanger, donc en plus des formalités habituelles sur les rapports d'activité 2019, les comptes, les renouvellements d'administrateurs, et puis les perspectives dont on a parlé là du DICA. On va partager aussi un point d'évolution de notre gouvernance qui occupe actuellement nos administrateurs pour créer un collège collectivité et permettre voilà, de travailler plus facilement avec les collectivités. Ça se passe déjà très bien, mais ça donnera une légitimité et un échange plus sain avec elles. Donc on présentera les modifications de nos statuts et on enverra la convocation à une AG extraordinaire qui se tiendra au mois de novembre, le 7 novembre à 15h, non pardon, à 13h en visio pour faciliter la logistique.
Mmh. Et donc le 3 c'est à 15h.
Et le 3 voilà, c'est bien à 15h, exactement.
À l'ancien monastère de Sainte-Croix. Morgane, merci.
Merci à vous pour votre accueil. À très bientôt.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.